Mesdames et messieurs, bienvenue à Matera. Ici, nous sommes à Vico Solitario, dans une maison-grotte du Sasso Caveoso, un lieu typique dont une partie est construite et l'autre creusée. Elle remonte aux environs du début du XVIIIe siècle. Observez en haut la voûte en berceau, la façade, la porte et au-dessus, la seule fenêtre pour aérer la maison. La partie construite est appuyée à la partie creusée. Au fond de la pièce, derrière la cloison en pierre, on a obtenu l'étable, à côté de laquelle vous pourrez observer une cavité employée en fosse à fumier. En sortant de l'étable, appuyée à la cloison en tuf qui sépare l'étable de la pièce la plus grande, vous pouvez remarquer un grand coffre vert, appelé « grand coffre du blé ». À l'intérieur, il est divisé en deux compartiments où l'on gardait le blé et l'avoine. En face du lit, dans la paroi rocheuse, une autre étable abritait le mulet et une mangeoire. En général, les étables abritaient un cheval ou un mulet, des poules, des cochons et des animaux de basse-cour. Les parois étaient utilisées pour y accrocher des outils agricoles et les harnais pour les animaux. En l'absence d'eau courante et d'égout pour les besoins physiologiques, on employait un pot en terre cuite recouvert d'un couvercle en bois situé par terre à gauche du lit. L'ameublement était composé avant tout d'un grand lit, très haut pour éloigner les gens de l'humidité du sol, mais aussi pour exploiter l'espace en dessous. Dans cet espace, on y mettait plusieurs choses et l'on y abritait d'habitude la couveuse et ses poussins. Le lit se composait de deux chevalets en fer qui soutenaient des planches en bois au-dessus desquelles on plaçait le grabat, matelas rempli de feuilles de maïs. Le jour, le bébé dormait dans le berceau au pied du lit. Puis le soir, il passait dans le lit de ses parents pour laisser sa place à un de ses frères. La commode à droite du lit servait pour les vêtements d'usage courant. Pendant la nuit, le tiroir le plus bas servait de lit au plus petit. À côté de la commode se trouve le coffre du trousseau, appelé coffre du linge, que les femmes apportaient en dot à leur mari. En face du lit, le coffre buffet pour le pain, la farine, le fromage, les légumes, etc. Le soir, les coffres servaient de lit. On y disposait des paillasses remplies de feuilles de maïs. Ceci en raison du nombre élevé d'enfants, 6 en moyenne, malgré un taux de mortalité supérieur de plus de 50% à celui des naissances. Au moment du repas, la famille se réunissait autour d'une toute petite table sur laquelle on ne posait qu'un seul grand plat pour tous. À côté du coffre buffet, vous pouvez observer le métier à tisser et les outils pour le coton. La plupart du temps, les familles le louaient en période hivernale pour tisser les vêtements pour la famille et préparer le trousseau pour les filles. Derrière le métier à tisser sont accrochés au mur les ustensiles et instruments nécessaires au quotidien, à savoir les tamis pour la farine et les légumes secs, les planches pour préparer le pain, les pâtes et la focaccia, le timbre à pain et la foreuse manuelle pour réparer les plats et les poteries. Par terre, appuyé sur une base en forme ronde en bois, remarquez le brasero. En hiver, on s'y réunissait tout autour pour se réchauffer et parler pendant les rares moments de détente. À gauche du métier à tisser, à côté du baquet en terre cuite pour la lessive, vous pouvez observer la partie supérieure de la citerne qui représentait le réservoir d'eau de la famille. Par la vitre dans le pavé à droite de l'entrée, vous pouvez remarquer le système de canalisation par lequel l'eau de pluie était acheminée à l'intérieur, dans la citerne. Les sas y s'étant formés sur une couche épaisse de pierre calcaire, privée de nappes aquifères et d'eau de source, il était nécessaire de récolter les eaux de pluie. À droite de la porte, dans un angle situé entre la partie creusée et la partie construite, se trouve la cuisine, équipée d'une cuisinière en briques typiques, composée d'une chaudière en cuivre alimentée par du bois et de deux petits fours à charbon. Dans la paroi rocheuse s'ouvrent des niches et des étagères destinées aux céramiques et récipients pour la cuisine. Le monde paysan a survécu jusqu'en 1952, date de la première loi spéciale des Sassi, conçue par Alcide De Gasperi, qui permit le relogement de plus de 15 000 personnes dans des nouveaux quartiers construits d'après le plan d'urbanisme spécifique et bien organisé de l'architecte Luigi Piccinato. À cette époque, Matera comptait 30 000 habitants. Le déplacement de 50% de la population s'est produit entre 1953 et 1968. En effet, les derniers habitants de cette maison-grotte sont partis en 1956. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir des Sassi de Matera.